Bonsoir à tous. Merci d'être venus en cette période de vacances scolaires pour ce débat qui va concerner les thérapies du futur à partir des nanotechnologies, de la microélectronique, de l'informatique et de la médecine. Donc un très vaste programme. Pour l'aborder, nous avons deux auteurs de livres qui sont avec nous. À ma gauche, donc Jean-Louis Potrat, qui est physicien des semi-conducteurs, qui est ancien chercheur et conseiller scientifique au CEA et qui a écrit deux ouvrages. Le premier, Demain, le nanomonde, voyage au cœur du minuscule, en 2002 chez Fayard, et toujours chez Fayard, Des puces, des cerveaux et des hommes, en 2007, donc très récemment. Et à ma gauche, Christian Hervé, qui est directeur du laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale de l'Université Paris-Descartes. C'est bien cela ? Et qui est le directeur d'un ouvrage collectif qui s'appelle « La nanomédecine, enjeux éthiques, juridiques et normatifs ». Donc un ouvrage qui rassemble un très grand nombre d'auteurs et dont il signe la conclusion. Et donc nous allons parler un petit peu de ce que les nanotechnologies peuvent apporter à la médecine, quels sont les progrès attendus, les progrès déjà obtenus, s'ils existent, sachant qu'il faudra peut-être distinguer un petit peu ce qui relève de la nanotechnologie pure et de l'électronique, puisque souvent certaines confusions existent entre micro et nanotechnologie. Et puis, nous verrons quels problèmes peuvent poser ces nouvelles technologies, quelles questions elles peuvent poser et comment essayer d'y répondre au mieux. Donc, je cède tout de suite la parole à Jean-Louis Potrat qui va nous parler un petit peu de ce qu'il aborde dans son livre, en particulier donc des applications de la micro et de la nanotechnologie finalement à la médecine et au traitement de certaines maladies.
D'accord, bonsoir. Le sous-titre, c'est « Quand l'électronique dialogue avec le cerveau ». Donc, je me suis placé de ce point de vue, disant l'électronique se développe énormément, elle se miniaturise et on rencontre des applications de communication avec le cerveau. Et jusqu'où on peut aller, donc il y a un certain nombre de chapitres pour examiner comment on peut observer le cerveau, comment on peut soigner le cerveau, comment on peut communiquer avec tout ça avec des moyens électroniques. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas faire une énumération fastidieuse, mais je pense qu'en préambule, il est important de dire pourquoi l'électronique peut dialoguer avec le cerveau. Elle peut dialoguer parce que notre cerveau, c'est une machinerie qui est à la fois biochimique et électrique. En effet, les cellules du cerveau, les neurones, donc c'est des petites cellules hérissées de multiples pointes, les dendrites, et il y a une prolongation particulièrement longue, c'est l'axone de ce cerveau. Et quand par les dendrites, un neurone reçoit des stimulations concordantes, répétées, tout d'un coup, il déclenche un signal électrique. Il va déclencher une impulsion qui va se propager le long de son axone et jusqu'à s'approcher d'un autre neurone qui est au bout de l'axone. Mais là, il y a une barrière que l'électricité ne franchit pas et il faut qu'il y ait un neurotransmetteur qui opère la transmission d'informations entre le neurone émetteur et le neurone récepteur. Donc on voit comment interviennent en somme successivement ces deux types de transmission électrique et biochimique. Bon, l'intervention de la chimie dans le fonctionnement du cerveau, on est assez habitué à l'accepter parce qu'il y a de nombreux médicaments qui sont des substituts, des neurotransmetteurs ou qui les remplacent, qui font que quand on prend certaines drogues, par exemple, ces drogues peuvent simuler un neurotransmetteur ou au contraire empêcher la fixation de neurotransmetteurs et ça modifie le fonctionnement du cerveau. Et puis, par exemple, il y a des médicaments comme des antidépresseurs qui vont agir sur le fonctionnement du cerveau. Et donc, on est assez habitué avec cette conception-là. Par contre, le fait que le cerveau, c'est aussi une machine électrique, on est un peu moins habitué. Encore que depuis déjà 70 ans, je pense, on fait des électroencéphalographies, c'est-à-dire qu'on mesure les signaux électriques qui apparaissent à la surface de la tête quand on est vivant, tout simplement, ou quand on fait quelque chose. Et ces signaux électriques sont captés par des petites électrodes. Bon, dévoile le fonctionnement du cerveau, qui est un fonctionnement normal ou éventuellement pathologique. Par exemple, dans le cas de crise d'épilepsie, on voit des signaux particuliers. Donc maintenant, avec l'irruption des techniques électroniques, on peut envisager d'aller plus loin que la simple observation, et en particulier, on peut envisager de soigner des maladies. Donc ça, c'est un des points sur lesquels je pense qu'il est intéressant d'insister, que déjà aujourd'hui, il y a des maladies ou il y a des insuffisances de certains organes que l'on peut remplacer par des signaux électriques. Alors, on va peut-être d'abord s'éloigner du cerveau et parler de l'audition. Donc l'audition, c'est un moyen de transformer les vibrations de l'air en stimulations électriques qui vont arriver sur le nerf auditif et ensuite être transmises au cerveau. Et il arrive que dans certains cas, de façon à la naissance, certaines personnes ne peuvent pas percevoir les sons parce qu'il y a une défaillance dans la transmission des vibrations jusqu'aux cellules nerveuses. Ces cellules sont fonctionnelles, mais il n'y a rien qui les excite. Et depuis quelques années, on a mis au point, découvert donc des petites prothèses qu'on appelle des implants cochléaires qui sont introduits à l'intérieur de la cochlée, qui est un organe en forme de limaçon. Et cette petite prothèse, on peut dire que c'est un faisceau de 20 fils électriques qui vont venir prendre contact avec la cochlée en différents points. Et sur chacun de ces fils, on va envoyer des signaux électriques correspondant aux différentes fréquences, donc les graves, les aigus. Donc quand je parle, quand il y a de la musique, un appareil électronique analyse les composantes du son et les envoie sur chacun de ces fils qui sont dans la cochlée. Et de cette façon, il est possible de créer une stimulation électrique des nerfs auditifs qui reproduit de façon assez semblable, hein. C'est difficile de savoir exactement, mais de toujours est-il que ça redonne une perception des sons à des personnes qui auraient été parfaitement sourdes. Et on le fait même donc sur des très jeunes enfants, parce que si on détecte tout de suite à la naissance qu'il y a justement cette déficience du système auditif, le cerveau ne se développerait pas, l'air qui est dédié à l'audition ne se développerait pas si elle n'est pas stimulée. Et cet air serait utilisé à d'autres choses, à la vision, à toucher, etc. Donc il faut les implanter très jeunes. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait depuis déjà une trentaine d'années, qui maintenant est abouti à une certaine maturité. Et je reviens sur cet exemple qui est du passé ou du présent pour montrer qu'en fait, il y a des moyens de stimuler le système nerveux pour remplacer un organe défaillant. Et donc, pour revenir à des choses peut-être plus de l'actualité présente, donc il y a une maladie qui est la maladie de Parkinson, que l'on sait non pas soigner, mais dont on fait disparaître les symptômes par d'une stimulation électrique. Alors, un petit mot sur la maladie de Parkinson. Donc, c'est la perte d'une certaine substance, dite la substance noire, qui, pour des raisons inconnues, disparaît et n'est plus capable de fournir le neurotransmetteur dont on a parlé tout à l'heure, qui est la dopamine. Donc, il n'y a plus de dopamine. Et le mouvement, quand je bouge ma main, le mouvement est relativement contrôlé, souple, parce qu'il y a une parfaite balance, parfait équilibre entre des voies excitatrices et des voies inhibitrices. Et en fait, donc, quand ces neurones à dopamine ne sont plus là, le mouvement devient saccadé, beaucoup de tremblements et une grande rigidité. Et donc, une des solutions qui avait été élaborée, disons, depuis déjà une cinquantaine d'années, ça consistait, pour les personnes qui étaient gravement rendues invalides par cette maladie de Parkinson, donc une solution, c'était de faire disparaître, en détruisant, en brûlant, un noyau qui se trouve vraiment au fond du cerveau, un noyau subthalamique. Et on le détruisait d'un côté et on constatait qu'effectivement, c'était le fonctionnement de ce noyau qui était anormal et qui introduisait les tremblements. Donc c'était, il y avait une certaine amélioration, sans que ce soit parfait. On ne pouvait pas le faire des deux côtés. Et donc, un neurochirurgien de Grenoble, le professeur Benabid et son collègue Pierre Polak, menaient des opérations de ce type en introduisant des électrodes. Il faut voir que c'est des électrodes de 15 cm qu'on introduit à travers tout le cerveau pour aller jusqu'à la base, dans le noyau en question. Et avant de faire la destruction du noyau en question, par des stimulations électriques, ils vérifiaient que tout allait bien, qu'on pouvait détruire. Et au cours d'une de ces expériences, tout d'un coup, le patient, parce qu'il faut dire qu'on introduit ça dans le cerveau, mais le patient est parfaitement conscient. Il a juste une anesthésie locale pour qu'on découpe une partie de la boîte crânienne et qu'on puisse entrer les électrodes. Donc le patient est conscient et lors de ces essais de stimulation, tout d'un coup, il dit « Ah ben, ça va bien, je ne tremble plus ». Et il y avait eu de façon apparemment miraculeuse, disparition donc des symptômes très graves de la maladie de Parkinson. Et ça, ça a été le point de départ d'une nouvelle thérapie où, au lieu de détruire les noyaux en question, les noyaux subthalamiques, ces noyaux sont soumis à une stimulation électrique à 150 ou 200 Hz, donc des signaux électriques qui font que le noyau en question, en fait, est inhibé. Son fonctionnement, qui était un fonctionnement anormal, est inhibé par la stimulation électrique. Et donc, les patients peuvent donc se promener, travailler, revivre normalement avec ce jeu d'électrodes qui leur est mis. Donc, c'est deux électrodes qui leur sont implantées dans le crâne et qui sont stimulées par un stimulateur cérébral qui est l'équivalent d'un stimulateur cardiaque. Donc en fait, c'est les mêmes techniques, mais au lieu d'aller avoir une électrode qui va vers le cœur, c'est des électrodes qui vont au fond du cerveau. Voilà, donc je pense que je ne voudrais pas être trop long. Donc je pense que c'est assez symptomatique d'une nouvelle évolution des thérapies où on peut utiliser les signaux électriques pour soit combattre des handicaps, soit soigner, enfin faire disparaître les symptômes de certaines maladies.
Très bien, je crois qu'on y reviendra effectivement au cours de ce débat. On va tout de suite passer la parole à Christian Hervé, qui va nous parler plus de l'aspect éthique, mais qui va quand même peut-être nous expliquer comment il est arrivé à donner ce titre à son ouvrage, qui s'appelle la nanomédecine, puisque c'est un terme qui n'existe quasiment pas dans notre vocabulaire en France.
Absolument. Depuis une vingtaine d'années, les microtechnologies ont complètement changé notre quotidien et ont fait poser un certain nombre de questions éthiques à des personnes qui, au niveau international, s'appellent bioéthiciens. En France, nous sommes beaucoup plus sur des professionnels qui eux-mêmes essayent de réfléchir sur leurs propres techniques et d'avoir une certaine idée sur leurs limites. Mais il existe, au niveau international et en particulier anglo-saxon, des personnes qui développent des théories et une réflexion éthique, c'est-à-dire sur les limites des technologies, sur les biotechnologies appliquées à l'homme. Et en ce sens-là, il y en a beaucoup, en particulier au Canada. Et nous sommes amenés, en interaction avec eux, à nous réunir tous les ans à Paris-Descartes, 6 experts québécois ou américains, car souvent ils viennent ensemble, 6 experts français ou européens. Et nous prenons un certain nombre de sujets, dont j'en citerai un, qui était par exemple l'avant-dernière fois où en est-on de la santé publique et des politiques de santé, et en particulier étant d'actualité, les sujets sont souvent d'actualité, puisque ce sont ceux actuellement de la campagne électorale américaine, et en particulier de remboursement d'accès aux soins, bien sûr, et de politique de santé. Et cette année, ça a été donc la nanomédecine. Pourquoi la nanomédecine ? Déjà parce que la personne qui dirige les 6 experts québécois se trouve être l'ancienne présidente du comité international de l'UNESCO, de bioéthique de l'UNESCO, et qu'ils avaient été amenés à commettre un rapport. Il y a eu également un rapport cité par d'ailleurs Gilles Butch, qui faisait partie de nos experts, et qui est le secrétaire scientifique le président du conseil scientifique du CNRS, et qui lui aussi fait référence à un rapport du CNRS. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de rapports. Il était utile à un moment de rassembler de manière multidisciplinaire à la fois ce qui était des techniques appliquées au corps dans le cadre de la nanomédecine, mais également les différentes disciplines qui pouvaient être amenées à réfléchir ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est le livre chez Dalloz. D'ailleurs, toutes ces rencontres, depuis maintenant 5 ou 6 ans, sont éditées à chaque fois chez Dalloz, un recueil qui d'ailleurs est assez prisé en définitive.
Mais sur, au cours de ces débats, comment vous pourriez aujourd'hui définir ce que c'est que la nanomédecine, sachant qu'on a déjà pas mal de mal à définir les nanotechnologies, on y reviendra avec Jean-Louis Potras, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Est-ce qu'en nanomédecine, les choses sont plus claires?
En nanomédecine, c'est-à-dire que c'est un problème simplement de grandeur, et qui fait qu'un certain nombre de barrières, qui sont des barrières physiologiques, on peut dire comme celle qui sépare le cerveau dans son irrigation avec le reste du corps, eh bien, il y a là une barrière qui permettait jusqu'à maintenant un certain nombre de médicaments, pour prendre ceci, à ne pas passer, comme un certain nombre d'autres molécules, parce qu'étant trop grosses tout simplement, ou réagissant avec la barrière. Maintenant, avec les nanomédecines, il est hors de question de penser qu'il puisse y avoir une barrière. Et dès lors que le cerveau, puisque c'est celui qui a été pris comme exemple, et c'est là où se posent réellement de véritables problèmes, eh bien, les possibilités de manipulation d'intimidation ou de suggestion sont bien sûr majeures. Mais il ne faut pas dire pour autant que le problème existe que maintenant par les nanotechnologies. Prenons un exemple. La Suisse, il y a à peu près une centaine d'années, avait des problèmes qui étaient liés à une carence en iode. Et sans le dire aucunement aux différents citoyens, elle a mis simplement dans les eaux un peu d'iode, ce qui a permis de guérir tous les goitres que la Suisse pouvait avoir. Ça montre comment le problème de fond n'est peut-être pas la technologie elle-même, mais comment on l'emploie et surtout quelle représentation qu'on peut avoir. Alors par rapport à l'exemple qui a été proposé, qui est contre, surtout quand on a dans sa famille un malade qui est atteint de maladie de Parkinson, et on le voit se dégrader, on le voit pris en charge par la L-DOPA, qui est un médicament qui permettait d'améliorer, une véritable amélioration, qui ensuite avait un échappement et qui faisait en sorte que l'augmentation des doses entraînait des comportements hiérarchiques absolument pas acceptables, même dans la famille, quelquefois. Et c'est vrai que les avancées que vous présentez sont majeures. Elles sont évidentes. Il en serait de même, d'ailleurs, pour la maladie d'Alzheimer. Car de la même manière, pour la maladie d'Alzheimer, un certain nombre de projections sont faites pour que les nanotechnologies puissent, par rapport à des cellules bien particulières qui elles-mêmes, et je pense que vous pourriez les expliquer beaucoup mieux que moi, qui sont malheureusement totalement atteintes, il y a possibilité de remplacement de telles cellules. C'est vrai que déjà des travaux ont été faits dans ce sens, dans la maladie de Parkinson en particulier, puisqu'on avait pris des cellules de médulo-cérébrale que l'on avait transplantées en intracérébrale pour montrer un peu que la recherche sur le cerveau, sur une maladie aussi handicapante que la maladie de Parkinson, et bien sûr l'Alzheimer qui est une autre sorte de maladie, font que la relation bénéfice-risque est majeure. C'est-à-dire que le bénéfice à traiter des personnes, d'autant plus quand elles vous touchent, qu'elles sont de votre famille, vous comprenez bien que le bénéfice est majeur par rapport à un risque qui globalement est infime, à la condition que les pratiques des médecins et des chirurgiens soient bien codifiées. Et c'est peut-être ça, justement, et il y a une autre condition qui peut être importante, c'est qu'il y ait une acceptation de la part du corps social. Et je vais prendre un exemple, si vous voulez bien, juste pour aller dans votre suite. Certes, donc, l'Alzheimer, la maladie de Parkinson, on comprend. Mais que veut dire par rapport à des possibilités avec des caméras de positons, avec une résonance magnétique nucléaire, d'être capable de caractériser les émotions des personnes. Et pourquoi pas jusqu'à prédire ces émotions, prédire éventuellement la récidive. Lorsqu'une personne qui aura été amenée à maltraiter ou avoir des problèmes sexuels jusqu'à la pédophilie, À partir du moment où on aura typé une telle personne, ou qu'on aura typé les aires corticales, est-ce que ce n'est pas éventuellement faire des corrélations très rapides que de dire après, en prévention, toute personne qui aurait telle réaction vis-à-vis de telle stimulation est une personne qui est une personne à risque, et pour cette raison-là, parce que la société doit se protéger, eh bien, doit faire en sorte que cette personne... Nous en sommes au même niveau que l'ADN par rapport au débat qu'il y a eu il y a à peu près 3 ou 4 mois. Est-ce que l'on peut neurotyper, nano-neurotyper les personnes comme on a pu essayer d'adénotyper les personnes?
Il semblerait qu'on n'ait pas besoin de ces développements des nanotechnologies pour prendre des mesures vis-à-vis des personnes qui risqueraient d'être des récidivistes, puisqu'on a pris des mesures très récentes de réforme de la justice qui permet de les enfermer même sans avoir ce typage dont vous parlez. On va y revenir, mais Jean-Louis Potra, pour rester une seconde encore sur les définitions, je crois que c'est important parce que les exemples que vous avez donnés, justement, ne clarifient pas vraiment le terme nanotechnologie dans la mesure où, justement, il ne relève pas tellement de cette échelle. Or, aujourd'hui, le terme nano a pris une ampleur considérable, aussi bien chez ceux qui en font une utilisation de publicitaire, puisqu'on voit des objets, des voitures qui s'appellent nano, que de ceux qui condamnent certains développements en mettant les nanos toujours en avant comme étant le pire des dangers. Alors, comme il est toujours mieux de savoir de quoi on parle, peut-être que vous pourriez nous préciser, vous qui avez été très proche du CEA à Grenoble, donc un des hauts lieux des nanotechnologies en France, vous préciser un petit peu de quoi il s'agit.
Je vais essayer. Effectivement, donc les nanotechnologies, c'est le moyen de fabriquer des objets de plus en plus petits. Et alors, dans le petit, il y a toutes sortes d'échelles. Donc, c'est vrai qu'on peut parler de nombreuses choses en leur rangeant dans cette grande étiquette nanotechnologie, et, d'où des fois une certaine confusion. Je suis bien d'accord. Pour moi, il y a un exemple d'ailleurs qui est tout à fait dans la ligne de ce qu'a présenté M. Hervé précédemment, qui me semble tout à fait symptomatique de ce que l'on peut faire. Actuellement, bon, si on veut, disons, administrer une drogue, donc on peut l'avaler, on peut faire une piqûre, mais cette drogue, ce médicament, il va se promener dans l'organisme, il va être dégradé, il va éventuellement être éliminé en grande partie, etc. Alors, on voudrait qu'il aille uniquement sur l'organe que l'on cherche à soigner, qu'il ne soit pas dégradé, et éventuellement trouver qu'il soit associé à une molécule ou quelque chose qui permette de visualiser où est-ce que le médicament a été fixé et quelle est son efficacité. Et ceci, on peut le concevoir maintenant avec justement les techniques de miniaturisation. Donc imaginons qu'on fabrique des petites billes, par exemple, de verre, donc de silice. Ces petites billes de verre qui peuvent avoir 50 nanomètres de diamètre, elles vont être un support, et sur ce support, on va fixer d'autres protéines actives. Alors, ça peut être, par exemple, une molécule qui va être le médicament proprement dit. Ça peut être aussi, à côté, une molécule de reconnaissance qui fait que cette petite bille, elle va se promener dans le circuit sanguin, mais elle va se fixer là où elle doit aller. Alors, par exemple, ça va être une protéine de surface d'une cellule cancéreuse qui va être reconnue par la molécule de reconnaissance. Et comme ça, les billes vont se fixer spécifiquement sur une cellule cancéreuse. Et on peut aussi mettre un élément de contraste qui va permettre d'imager la position de cette bille. Donc, on peut concevoir des médicaments du futur comme ceux-ci qui seront vraiment conçus pour une fonction donnée, un organisme donné. Alors, on peut aussi trouver des moyens d'action qui ne sont pas la chimie, qui ne sont pas des molécules à proprement parler. Par exemple, on peut très bien imaginer que la petite bille de verre, elle est recouverte d'une couche d'or extrêmement fine, d'une épaisseur bien définie. Et on met toujours une molécule de reconnaissance. Donc, les petites billes, elles vont venir se fixer sur les cellules toujours que l'on veut faire disparaître. Et à ce moment-là, il suffira d'éclairer à travers le corps, il suffira d'envoyer un rayonnement qui va être absorbé spécifiquement sur ces petites billes de verre, qui va chauffer. Et il suffit que ça chauffe à 70 degrés et ça tue la cellule sur laquelle elles sont fixées. Donc on peut trouver toute une gamme, et il y en a d'autres, disons là, je ne donne que des exemples les plus faciles à expliquer. Donc il y a toute une gamme d'approches pour faire effectivement de la nanomédecine. Je crois que c'est vraiment un terme qui est très très significatif, j'y crois beaucoup. Mais on est seulement dans l'approche de ces techniques-là, parce que comme on l'imagine, c'est quand même un petit peu long à mettre au point, et les essais sur des personnes, ben, ça ne se fait pas comme ça, il faut vérifier qu'il n'y a aucune innocuité. Mais pour revenir un mot sur les études du cerveau, je pense qu'il y a aussi beaucoup à attendre des techniques de miniaturisation. Alors peut-être pas tout à fait à la même échelle, mais on a parlé d'électrodes, des grosses électrodes, mais on peut mettre aussi des électrodes de mesure sur un cerveau, à la surface du crâne. Donc on va mettre 200 électrodes dans 1 demi centimètre carré. Donc on va avoir des pointes très très fines. Et si on veut faire des mesures, par exemple sur une personne qui est tout à fait éveillée, et que si on veut faire ces mesures, il faut mettre des fils qui vont aller sur chacune des électrodes. Donc on imagine que la personne va être fixée à son lit parce qu'il va y avoir un faisceau de fils qui va partir de chacune de ces électrodes, donc de son crâne. C'est par exemple le type de situation que rencontre un patient qui a des crises d'épilepsie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et pour déterminer exactement la zone qui est responsable de l'épilepsie, il faut faire ce genre de mesure pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, imaginons qu'on puisse, sur chacune des électrodes, mettre un micro-émetteur qui va être capable d'enregistrer des signaux électriques, de les amplifier et de les réémettre. Eh bien, alors là, on aurait fait un grand pas pour la simplification des thérapies et éventuellement la simplification de la vie donc des malades.
Christian Hervé, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?
J'aimerais bien répondre à cela. Il y a une histoire que vous racontez dans votre livre qui est celle des chauffeurs de taxi londoniens. Il paraît qu'un chauffeur de... Je ne savais pas, je l'ai appris hier. Les chauffeurs de taxi londoniens, quand vous rentrez et vous dites une adresse, il n'y a aucune difficulté, ils ont un apprentissage extraordinaire. Ils ont des facultés de mémorisation tout à fait développées et qui font qu'ils sont bien meilleurs que tous les autres et vous perdriez vous-même, même avec tous vos plans, etc. Eh bien, il est possible, dans la mesure où les mémorisations sont possibles, de remplacer ou d'adjoindre éventuellement un système de ce type qui permettrait à des personnes de pouvoir... avoir cette capacité lorsqu'elle postulerait éventuellement un tel emploi. Mais bien sûr, le problème inverse existe aussi, c'est-à-dire la possibilité pour des employeurs vis-à-vis d'un certain nombre de capacités que la personne aurait ou n'aurait pas en fonction justement de ces nanotechnologies qui permettent de tester la performance cérébrale des différentes personnes. Eh bien, en ce cas-là, de leur donner ou de ne pas leur donner, de stigmatiser, d'exclure de l'emploi un certain nombre de personnes. C'est vrai que ceci peut se poser problème. Mais par contre, ma réaction, elle est encore plus basique, si vous voulez. Lorsque j'étais amené, il y a à peu près 5 ans, à Paris Descartes, à l'Université Paris Descartes, je suis au 45 rue des Saints-Pères, donc il y a une huitaine d'étages à peu près, où il y a des réunions, des centres du CNRS, de l'INSERM, et je devais monter en étant le président du comité de protection des personnes à la recherche biomédicale. Je devais monter de manière à savoir si les personnes étaient en accord avec ce qu'on appelle la loi Hurier-Séruscla, qui est justement la loi de protection des personnes, justement, qui institue ces fameux comités d'éthique de la recherche tels qu'ils existent au niveau international. Qu'ai-je été étonné un jour, je ne vous dirai pas à quel étage, parce qu'ils sont toujours là, lorsque je frappe, j'ouvre la porte et le directeur du laboratoire me dit « Oui, mon cher collègue », et je dis « Mais que faites-vous ? Voilà, nous travaillons sur des hippocampes ». Et je lui pose la question, c'est pas tous les jours qu'on a des hippocampes, comment avez-vous des hippocampes ? C'était très difficile, parce que le problème a été que ces hippocampes, ils les avaient tout simplement chez des patients qui avaient une intervention au niveau neurochirurgical, et ils s'étaient tout simplement mis d'accord avec le chirurgien pour un peu de matériel d'hippocampe, chez un certain nombre de patients. Bien sûr, j'ai posé la question, est-ce que les patients étaient avertis, est-ce qu'ils avaient donné leur consentement? Autant vous dire que non. Ça fait partie des pratiques qui étaient un peu difficiles et je dirais même totalement prohibées pour montrer que, au-delà de ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas tant, excusez-moi de le dire, la nouvelle technologie telle qu'elle est et des possibilités qu'elle est capable de faire que la manière dont sont intégrées les limites de l'application de ces pratiques par les personnes. Et c'est peut-être là où il y a une réflexion qui m'apparaît importante, qu'on peut appeler d'éthique médicale, c'est-à-dire une réflexion par les professionnels eux-mêmes sur les technologies qu'ils sont amenés à appliquer sur le corps en termes de recherche sur la personne, de manière justement à envisager autant le bénéfice qu'il compte apporter, est-ce que celui-ci est vraiment arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments secondaires qui viennent éventuellement faire basculer le rapport bénéfice par rapport à tous les risques? Ou est-ce que tout simplement, ils ont réfléchi à des limites possibles avant même d'intervenir, avant même de faire leur recherche? Donc c'est tout le problème du modèle. Est-ce que la recherche biomédicale, c'est de faire n'importe quoi, n'importe comment, ou est-ce que c'est avoir un protocole qui fixe des limites autant scientifiques que des limites éthiques, jusqu'où je pourrais aller? Bien sûr, où le consentement peut être là, mais il n'y a pas que le consentement. Dans votre livre, vous montrez bien comment on peut être amené à délivrer à des personnes qui le demanderaient justement un certain nombre de technologies, mais d'attendre que le psychiatre, pendant 3 ou 4 ans, et c'est ce que l'on a fait d'ailleurs en médecine vis-à-vis des personnes qui veulent changer par exemple de sexe ou transsexualisme. C'est pas parce qu'on est capable de le faire techniquement que pour autant on le fait. Par contre, il y a une espèce de protocole, protocolisation, il y a une volonté de modélisation de ce que l'on veut faire avec un aspect critique qui apparaît très important. Et c'est peut-être cela qui est peut-être à reprocher, c'est certain. Je vais prendre un exemple, j'en aurai terminé. Les lobotomies telles qu'elles ont été faites, puisque vous le savez vous-même, des lobotomies il y a à peu près 80 ans ont été faites de manière non scientifique, pour ne pas dire ascientifique, et aboutissaient en définitive à transformer des personnes en zombies, alors que certes elles avaient des troubles, mais ne bénéficiaient pas. Tout ce qui vient d'être dit auparavant par mon collègue Potra est une réflexion scientifique avec des protocoles qui doivent justement se donner des limites, certes scientifiques, mais également, comme je le dis, éthiques par rapport à la personne qui est en face d'elle.
Alors pour délimiter bien le champ, là, vous avez déjà vraiment abordé le débat en profondeur, mais pour bien délimiter le champ, je crois qu'il faut peut-être préciser que quand on parle de nanomédecine, ces nanotechnologies permettent d'aller au-delà de la médecine et dans la même foulée, je dirais, ou dans le même développement, d'améliorer également les performances ou d'être tenté d'améliorer les performances, comme vous l'avez signalé d'ailleurs. Et là, on est en train de changer totalement de modèle. On n'est plus simplement dans le soin, dans la tentative de pallier des carences ou de soigner des maladies, mais dans la tentation d'améliorer les performances. Ça change quand même beaucoup de choses, Jean-Louis Potra.
Oui, bien sûr. Quand on prend des exemples donc, comme ceux dont j'ai parlé, bon, ça ne pose pas beaucoup de questions parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas à hésiter puisqu'on va soigner quelqu'un, soigner un proche, etc. Par contre, c'est vrai, si on commence à dire bah, écoutez, on est capable de faire un implant qui va améliorer votre mémoire, bon, je vous rassure, ça n'existe pas encore, mais on peut imaginer qu'un jour... Bon, quelle sera la réaction du corps social, des personnes? Bon, on sait bien qu'il y aura toujours des individus qui seront prêts à faire le saut, même si c'est un saut dans l'inconnu, parce qu'il y a un aspect challenge, il y a un aspect être dans la modernité, etc. Et donc, je crois qu'effectivement, mais c'est comme, il n'y a qu'à prendre l'exemple de ce qui se passe dans le sport, hein, là, c'est... La stimulation, elle est d'ordre chimique, mais c'est exactement pareil. On voit bien que des produits qui ont été inventés comme le PO pour soigner des anémies profondes sont utilisées par des sportifs pour être le plus fort. Eh bien, on peut très bien imaginer, ça, je suis presque sûr que ça a dû déjà être fait, de faire des stimulations électriques qui vont faire que le sportif il ne sentira plus la douleur, parce que c'est la douleur qui empêche de faire l'effort et d'aller au bout de ce que peuvent supporter les muscles, les tendons, les articulations. Donc si on peut faire disparaître cette douleur, alors le problème c'est que les drogues que l'on utilise peuvent être tracées maintenant, mais imaginons qu'une stimulation, je dis quelque chose au hasard, mais ça pourrait être une stimulation magnétique transcrânienne, par exemple. Ça se fait une demi-heure avant la compétition et ça peut éventuellement améliorer les performances. Bon, là, je parle vraiment au hasard. Hein, ne croyez pas que c'est une bonne technique. Mais je suis sûr que c'est des voies auxquelles il faut être très attentif parce que on sait bien qu'il y aura toujours des apprentis sorciers pour essayer et il y aura aussi des candidats pour se livrer à ce genre d'expérience.
Alors là, vous parlez de choses futures, mais vous parlez aussi dans votre livre d'une entreprise qui existe, qui s'appelle Brain Fingerprinting et qui, elle, est capable de détecter l'existence de souvenirs dans le cerveau.
On est dans un autre domaine, oui, qui est, disons, tout ce qui est l'investigation sur des personnalités. Donc, imaginons que vous êtes chargé d'embaucher des candidats, enfin, choisir un candidat pour un poste donné. Bon, ben, vous cherchez à évaluer ses compétences et il y a des sociétés qui proposent donc des techniques basées sur, disons, l'analyse du cerveau. Alors, l'analyse, il y a par exemple l'IRM, les techniques d'IRM qui permettent de voir le fonctionnement du cerveau. Bon, des fois, on voit des articles de journaux qui disent on voit nos pensées. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, on ne voit pas les pensées. Mais on peut peut-être déceler, ou on pourra déceler des capacités de particulières pour certaines fonctions et ça pourrait éventuellement être utilisé.
Ce que vous décrivez, c'est les souvenirs.
Je viens à fingerprinting, effectivement, c'est assez frappant. Donc ça, disons que c'est une technique qui est proche de la technique machine à détecter le mensonge. Voilà, détecteur de mensonge. Détecteur de mensonge, donc dans sa technique rudimentaire, c'est on met des électrodes sur le corps, dans la creux de la main, et bon, on vous pose une question embarrassante, ben, vous avez un coup de transpiration, et ça, les électrodes le détectent. Mais disons que ça, c'est trop banal, trop superficiel. Et si vous savez bien vous contrôler, vous ne transpirez pas et on ne voit rien. Donc, d'où l'idée de dire on va aller chercher plus profondément dans le cerveau. Et alors là, on a démontré qu'effectivement, si on pose des questions à des gens, si c'est quelque chose auquel vous êtes complètement indifférent, bon, votre cerveau a un certain type de réponse. Alors, style électroencéphalogramme, c'est des électrodes posées sur le crâne. Mais par contre, si on vous pose une question qui vous titille un peu, là, la réponse est un peu différente, elle est décalée dans le temps, etc. Donc, c'est là, je crois que c'est un signal P50 qui est 50 millisecondes après la question posée. Et on l'a vérifié avec des militaires qui connaissaient un certain nombre de choses. Ça peut être simplement des termes particuliers, etc. Donc, il y a des tenants d'une société, des créateurs d'une société qui disent on va utiliser ça pour détecter même pas le mensonge, mais des connaissances qui sont enfouies dans le cerveau. Donc, si par exemple on a quelqu'un qui est supposé possible, qui était un criminel possible, bon, il doit avoir connu la scène de crime, il doit avoir en lui le souvenir d'un certain nombre de choses qui étaient présentes. Donc, si on lui pose les bonnes questions, il va y avoir le petit signal P50 qui va le trahir. Donc, en fait, on aurait, avec cette technique-là, une façon d'aller chercher des souvenirs enfouis. Mais ce n'est pas forcément des mensonges, hein. Faut bien voir que, en fait, on n'en arrive que ça pourrait être simplement une personne qui serait passée sur la scène de crime un peu avant, mais qui aurait peut-être vu quelque chose de significatif. Donc, en fait, là, on arrive à un scénario qui est très, très proche de celui de Minority Report, où finalement, des personnes étaient suspectées parce qu'elles auraient pu avoir envie de faire un crime. Le crime n'était pas commis.
Christian Hervé, là, on voit qu'on est passé de la médecine à des perspectives futuristes, mais aussi des réalités tout à fait concrètes, des exploitations déjà aujourd'hui, de technologies qui n'ont plus grand chose à voir avec la médecine elle-même.
Alors justement, on peut très, très rapidement dire que la médecine, c'était la réponse à une souffrance, mais qui était évidente. La personne toussait, la personne avait mal à la tête, elle avait mal au ventre, il fallait faire une intervention chirurgicale. C'est-à-dire que c'était un stade de la médecine où, en définitive, la médecine répondait à un fait clinique, c'est en quelque sorte. Maintenant, on a eu ce qu'on appelle une bascule, une rupture épistémologique dans le sens même de la médecine, puisque l'on en est maintenant par rapport au risque. C'est-à-dire par rapport au risque d'avoir éventuellement telle ou telle maladie en connaissant éventuellement même quelquefois les gènes. Risque de cancer du sein lorsque l'on a éventuellement le gène BRCA1 ou BRCA2, etc. Avec possibilité, bien sûr, de réflexion autour de ceci, mais on est devant une médecine qui est beaucoup plus une médecine de risque. Et on est passé maintenant, troisième chose qui est importante, à une médecine de désir. Et la médecine de désir, c'est le désir d'enfant. Ça commence en grande partie avec les procréations médicalement assistées. Vous voyez jusqu'à maintenant que je ne dis ni c'est bien ni c'est mal. C'est tout simplement des nouvelles visions de la médecine, des nouvelles possibilités de la médecine. Et parmi ces technologies, ce qu'on appelle l'ICSI, l'injection intra-spermatique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ovule d'un homme, est une technique qu'on appelle l'ICSI, qui a été énormément demandée par les femmes à ce moment, surtout des couples qui étaient stériles et qui donc demandaient une telle technologie. Et il y avait un engouement important parce qu'en plus, il était dit en termes de publicité qu'il y avait beaucoup plus de naissances par rapport au nombre de ces techniques lorsqu'elles étaient faites vis-à-vis de toutes les autres. Alors, quel est le problème de cette médecine de désir ? C'est que vous n'avez même plus le consentement à demander à la personne, puisque c'est la personne elle-même qui va vous demander de changer de sexe, qui va vouloir avoir tel enfant, et avec possibilité, pourquoi pas, les yeux, etc., les capacités intellectuelles. Et là, on arrive avec de telles, non pas les techniques elles-mêmes pour agir, mais pour nommer, pour qualifier par des normes, c'est-à-dire comment appréhender une personne qui serait d'un niveau culturel, qui aurait possibilité, comment, comme vous le disiez vous-même, rajouter un peu de culture, un peu de mémoire. En définitive, ça ferait peut-être pas mal aux personnes, mais ça peut aussi faire un tout petit peu peur dans la mesure de la manipulation que cela peut entraîner. Et là, on est au niveau de la réflexion éthique. Il y a certes le médecin qui peut délivrer sa nouvelle technologie, qui lui est même demandée, pour laquelle souvent une publicité peut être faite dans un certain nombre de magazines. Mais d'un autre côté, il n'a plus comme moyen que de s'interdire lui-même en fonction d'un certain nombre de règles. Alors la question, c'est la question éthique de fond. Est-ce que ce sont les médecins qui doivent faire leurs règles ? Ou est-ce que c'est la personne qui demande ? Eh bien, on a trouvé une solution depuis 1994. C'est ce qu'on appelle les lois dites de bioéthique. Les lois de bioéthique, c'est donc la communauté en elle-même, pas simplement ceux qui vont être amenés à demander, qui vont fixer les limites de l'acceptable ou non. Et c'est ainsi que par rapport à l'ADN, c'est ainsi que par rapport aux nanotechnologies, à tout ce qui peut être, comment dire, qui peut modifier en définitive notre être, eh bien, de tels débats comme aujourd'hui, de manière à préparer des argumentations du corps social pour ensuite motiver des décideurs, et que ce ne soient pas des experts, éventuellement comme nous, ou comme les médecins, qui décideraient quelle serait à eux leur éthique, mais au contraire, se confronter, discuter et de voir jusqu'où, alors que les personnes demandent, mais qu'il y a un risque éventuellement d'échappement, et donc d'envisager cette espèce de rapport bénéfice, quels sont les bénéfices pour un par rapport au risque pour beaucoup, pour la société.
Jean-Louis Potras, est-ce que ce n'est pas une question très difficile? Vous-même, dès le premier livre que vous avez écrit sur les nanotechnologies, vous appeliez à un débat sociétal, enfin, qui s'adresse au grand public, et une réflexion que le grand public soit au courant de toutes ces avancées. Quelques années plus tard, puisque c'était en 2002, donc on est 6 ans plus tard, je ne suis pas certain que le grand public soit mieux informé. Et je ne suis pas certain non plus que le débat ou que les termes du débat se soient clarifiés.
C'est une question difficile. Non, les choses n'ont pas foncièrement changé, mais quand même, je pense qu'il y a eu une certaine habitude de débattre des questions scientifiques. Il n'y a qu'à voir le monde des médias qui est plus ouvert aux questions scientifiques qu'il ne l'était à l'époque. Je crois qu'il y a aussi un certain nombre de débats qui sont organisés. Bon, il n'y en a sans doute pas assez. Il y a une commission nationale du débat, il y a des conférences de consensus, bon, peut-être difficiles à mettre en œuvre quand même, parce que c'est vrai que pour avoir un débat positif, il faut avoir des interlocuteurs informés. Donc il y a un problème de connaissance et il faut en même temps ne pas se laisser embarquer par la parole des experts. Je crois que c'est vrai, c'est pas aux experts à dire ce qui est bon pour la société, c'est à la société. Donc il faut trouver les bons interlocuteurs, mais je crois qu'il faut en tout cas pas baisser les bras, et c'est une évolution longue, mais je crois qu'on doit y arriver.
Alors, il y a un risque de bipolarisation. On voit ce qui se passe à Grenoble, que vous connaissez bien, où là-bas il y a à la fois les chercheurs spécialistes français des nanotechnologies et puis des groupuscules opposants très violents et aux antipodes de votre démarche, sans qu'il y ait possibilité de dialogue là, visiblement.
Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui considèrent que tout est mauvais dans la société, tout est mauvais dans la médecine, que c'était bien mieux avant, sans préciser quand, et que par conséquent, il ne faut surtout pas laisser un débat s'instaurer, parce que si on débat, ça veut dire qu'on considère qu'il y a quelque chose de bon à prendre. Donc dans les nanotechnologies, il doit y avoir du bon. Si on débat dans la nanomédecine, il doit y avoir du bon aussi. Et effectivement, bon, je pense qu'il faut que pour qu'un débat fructueux s'engage, il faut que chacun respecte l'autre, même et surtout s'il n'est pas de votre avis. Et là, dans les débats auxquels vous faites allusion, c'était manifestement pas le cas.
Christian Hervé, vous voulez réagir?
Je vais réagir parce que je crois que c'est très important. C'est peut-être la chose la plus importante. Il faudrait premièrement que les chercheurs cessent de ne faire que de la science. C'est-à-dire qu'il faudrait absolument qu'ils s'ouvrent vers la vulgarisation scientifique. Car la confusion est majeure. Alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile. Regardez un tout petit peu par rapport à un phénomène nouveau. Nous avons des difficultés à dire ce que sera la nanomédecine, dans la mesure où elle n'existe pas encore et que nous parlons d'une technologie du futur. Mais si vous prenez sur les éléments de tous les jours, j'ai été absolument étonné par rapport à un travail d'un de mes élèves sur le mot euthanasie. Vous me direz, le mot euthanasie, pour un médecin, c'est quand même pas un mot qui ne fait pas frémir. On peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, quand on est médecin, faire des euthanasies, c'est contre ce que le Conseil de l'Ordre a pu dire, c'est risque de se retrouver au niveau pénal avec un procès, perdre éventuellement sa clientèle, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on peut être pour ou contre, le problème n'est pas là, mais c'est quelque chose qui a du sens. Eh bien, un de mes élèves a envoyé dans la région nantaise, aux médecins libéraux et aux cancérologues de toute la région, un questionnaire où l'une des premières questions est « Avez-vous déjà fait une euthanasie ?» Point d'interrogation. La réponse a été « Oui, pour 41 personnes. » Pas une, 41 personnes.
Sur combien ?
Alors justement, on me pose tout le temps, c'est sur 300 personnes qui ont été interviewées, mais le fait qu'il y en ait une, deux, trois ou cinq, c'est déjà difficilement compréhensible de le dire de cette façon-là. Alors le problème, c'est qu'ensuite, lorsqu'il y a les autres questions, on se rend compte que la plupart n'ont pas fait des euthanasies. Ils ont fait tout simplement un arrêt des soins et ils ne savent pas, bien entendu, qu'il y a une loi en avril 2005 qui s'appelle la loi énoéthique, qui justement est un accompagnement et qui permet de faire cela. Et comme ils ne connaissent pas la loi, ils ne savent pas comment cet accompagnement de fin de vie tel qu'ils l'ont fait, car souvent ce n'est pas de l'euthanasie, eh bien ils ne savent même pas dans quelles conditions il faut le faire, qu'il y a eu des arrêtés, qu'il y a un problème de collégialité, qu'il doit y avoir des personnes qui n'ont pas obligatoirement affaire avec le médecin qui va prendre la décision, etc., etc. Le gros problème, c'est non seulement la confusion, mais aussi le fait de rester ciblé, comme certains scientifiques éventuellement, sur leur objet, et de ne pas permettre, en définitive, qu'il y ait une connaissance au dehors. Mais s'il y a une personne qui doit connaître les règles, c'est le scientifique, de la même manière. Mais de la même manière, les autres qui font les règles, c'est-à-dire le public, doit mettre au courant. Donc je crois que la vulgarisation m'apparaît importante et devrait être valorisée au niveau de nos facultés, universités, CNRS, INSERM, CEA, bien entendu, ce qui n'est pas le cas actuellement.
De plus, quand vous parlez des lois de bioéthique, il se trouve qu'elles sont régulièrement révisées, qu'il y en a déjà eu deux sur une période assez courte et qu'elles doivent être révisées tous les 3 ou 5 ans, ce qui démontre qu'elles sont fluctuantes parce que justement elles ont un peu de mal à suivre les avancées et à statuer sur les avancées de la science.
J'adore cette question. Je ne pensais pas que vous alliez m'interroger là-dessus, mais j'y vais. Les lois de bioéthique, pour moi, ne sont pas le meilleur outil. Déjà parce que l'une des trois lois, au début, il y a trois lois de bioéthique, une sur l'extension de la fameuse loi informatique et liberté par rapport à notre confidentialité, on n'est pas loin de notre intimité, notre vie privée, par rapport à la médecine. La seconde, c'est par rapport au respect de la personne, non-commercialisation du corps humain, non-commercialisation du génome, etc., etc. Et le corps ne nous appartenant pas, en quelque sorte. Et troisième, les changements d'organes, les prélèvements et les problèmes génétiques. Bien, tout ceci a été fait. Normalement, la troisième loi devait, 5 ans plus tard, être revue. 5 ans plus tard, ça faisait 94-99, il ne s'est rien passé. Il a fallu attendre 2004. 2004, la réactualisation a eu lieu, et jusqu'à de 94 à 2004, il n'y a que les 2/3 des arrêtés qui ont été publiés de ces lois. Comment voulez-vous changer des lois alors que les arrêtés de la loi ne sont pas encore parus et donc que vous n'avez pas pu évaluer ce qu'avait entraîné le changement que la loi de bioéthique apportait?
Et comment vous voulez que les médecins s'y retrouvent et sachent qu'est-ce qui est en vigueur, alors, qu'est-ce qui est appliqué, quels sont les arrêtés?
Ça n'empêcherait pas de connaître la loi. Même si on la critique, elle existe quand même, c'est notre système. Le drame, c'est qu'on fait peut-être des lois de bioéthique peut-être un peu trop ciblées, où on voudrait dire aux gens comment ils devraient faire, alors qu'il serait peut-être plus important de les faire réfléchir sur des notions qui sont le consentement des personnes, comme c'est au Canada en particulier. Vous avez une loi cadre dans le code civil où la personne est considérée comme fondamentale et tout ce qui porte atteinte à la personne par définition. Et dans ce cas-là, on ne fait pas des lois qui sont particulières. Et on fait référence au respect de la personne dans la mesure où toute personne doit respecter les autres. Et dans ce cadre-là, et je prends en particulier au Canada, mais aussi dans tout le monde anglo-saxon, les comités d'éthique et comités de protection des personnes, donc, font florès dans toutes les institutions, il peut y en avoir. Et tous les problèmes peuvent être traités. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un débat à promouvoir qui est beaucoup plus simple, plutôt que de vouloir faire des grandes lois qui, certes, sont très importantes, puisqu'elles nous protègent. La loi protège les faibles, par définition. Mais lorsqu'elles veulent être beaucoup trop ciblées, beaucoup trop effectives, productives dans les actes, peut-être que là, nous nous trompons un peu avec des décrets, des arrêtés qui demandent et qui ne sont pas l'outil, car la science va beaucoup plus vite que le droit. Alors que des éléments de cadre, mais aussi des éléments qui font la personne humaine. Surtout que j'ai parlé que la médecine avait évolué. J'ai dit de fait, j'ai dit ensuite de risque et ensuite de désir. De la même manière, l'homme change. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas changé depuis que vous avez un téléphone portable. Votre vie a complètement changé. 30 ans auparavant, les femmes qui ont vu apparaître les machines à laver ont eu leur comportement et le comportement du groupe a été énorme. Ce qui veut dire que les technologies agissent énormément sur nos comportements. Et nous avons maintenant des types d'hommes et de femmes qui n'ont plus rien à voir. La sexualité n'est plus du tout la même depuis qu'il y a, bien entendu, un certain nombre de molécules. Donc il est aussi important d'envisager l'évolution de l'homme. Et d'ailleurs, il y a des théories qui, dans un précédent ouvrage que nous avons édité chez Debock qui s'appelle « La fin de l'homme », vous rendez compte, « La fin de l'homme », eh bien, il y a des théories sur le transhumain, vous en faites partie, vous l'avez aussi évoqué, il y a une postmodernité, tous ces éléments-là sont des éléments qui remettent totalement en cause la personne elle-même avec la technique venant se soucher jusqu'à contrôler la personne dans des désirs et dans des volontés que la personne aurait elle-même jusqu'à peut-être une manipulation de ces différentes possibilités.
Alors là, vous critiquez un peu le système français des lois, mais le problème, c'est que effectivement, c'est une culture française qui dépasse d'ailleurs le cadre des lois de bioéthique et où les lois prolifèrent beaucoup plus que dans le monde anglo-saxon. Jean-Louis Potras, sur cette question de l'encadrement un peu de l'activité scientifique, avant qu'on passe aux questions, à vos questions, comment vous imaginez celles qui concernent plus les nanotechnologies que l'application particulière à la médecine, puisque les nanotechnologies sont contestées ou débattues au-delà même de la médecine.
Alors, donc, les nanotechnologies, donc bon sang, il faudrait expliquer un petit peu ce que c'est, mais on peut dire qu'il y a un aspect qui me semble tout à fait évident, c'est que c'est des nouveaux matériaux et qu'il faut se préoccuper du devenir de ces matériaux. Alors que ce soit au stade de la fabrication, donc il ne faut pas que le réacteur où on fabrique des nanotubes de carbone, il explose et il en mette partout dans la vallée du Drac à côté de Grenoble. Donc il faut se préoccuper du devenir des matériaux en début de vie, en cours de vie et en fin de vie, c'est le recyclage, etc. Bon, je dirais que ça, c'est un premier aspect.
Qui ressemble beaucoup, je le coupe, là, au nucléaire, finalement.
Ça ressemble au nucléaire, ça ressemble, oui, effectivement, on l'associe un peu au nucléaire. Et puis, il y a certaines difficultés supplémentaires, parce que la nanoparticule, son activité chimique peut évoluer au cours de son devenir parce qu'elle va s'associer à d'autres molécules qu'elle va rencontrer dans l'atmosphère, dans le sol, etc. Et donc la dangerosité peut évoluer et de ce point de vue-là, il faut prendre sans doute de très grandes précautions. Mais il y a un autre aspect, je pense, qui est un peu l'aspect fonctionnel des nanotechnologies. On rentre plus dans ce, disons, dans le domaine de l'éthique, de l'usage. Et là, je crois que c'est pas forcément aux chercheurs qu'il faut poser la question, mais ça va être à ceux qui prévoient un usage. Hein, un téléphone portable, ça a déjà beaucoup évolué depuis sa création. Maintenant, les fabricants veulent trouver de nouveaux usages. Ça peut vous servir de GPS, ça peut servir à un certain nombre de choses. Et donc, il y a des préoccupations à avoir sur l'usage qu'on fait de ces technologies. Pour prendre un exemple tout à fait clair, c'est par exemple les caméras de surveillance. Pour une caméra de surveillance, ce n'est pas forcément de la nanotechnologie, c'est des microtechnologies, mais c'est quand même très lié aux techniques d'information et de communication. Eh bien, ça a un impact sur la vie, sur la privauté, sur la vie privée. Donc, je pense que là, il faut se préoccuper. Et là, ce n'est pas le chercheur qui a fait la belle petite caméra qui est en cause, mais c'est ceux qui développent tel usage et puis, les organismes qui, après, en surveillent l'usage ou le mettent en œuvre.
Alors, faut-il des lois ? Christian Hervé a l'air d'être plutôt sur la réserve en matière de législation. Ou faut-il autre chose ?
Pas trop de lois, mais il faut surtout une discussion avec les citoyens. Je pense que là, on est en période d'élection municipale. Est-ce que ces questions-là sont vraiment mises sur le tapis ?
Ça n'a pas l'air d'être le cas.
Mais je pense qu'en fait, la question, c'est que souvent, les usagers demandent plus de sécurité et sans voir peut-être les aspects un peu négatifs de cette hyper-sécurité.
Christian Hervé.
Alors, je rebondis.
Je vous en prie.
Nous sommes en période électorale. Que s'est-il passé il y a à peu près 3 semaines, 1 mois ? Un arrêt de la Cour de cassation qui dit que tout enfant mort-né peut être mis sur le... Comment ça s'appelle ?
L'état civil.
L'état civil, la fiche d'état civil. Alors, a priori, comme ça, pourquoi pas ? Toute la réflexion de la Cour de cassation, c'est de dire... ce n'est pas une petite circulaire venant même de l'OMS qui peut éventuellement prédire les limites. Donc c'est sur un problème de forme tel qu'elle doit le faire en définitive que la Cour de cassation invalide, mais bien entendu, un mouvement très important au niveau européen qui est en Pologne, mais qui est aussi en Espagne, qui est de revenir sur l'IVG. Et donc donner un statut en le mettant éventuellement sur l'état civil à quelque chose, je dis bien quelque chose, qui n'est pas encore né, et encore plus qui est mort avant d'être né, et de le mettre sur l'état civil, c'est déjà un pas vers la notion de personne. Et donc de donner un statut. Et à partir du moment où cette chose dont je parle là aurait un statut, eh bien, c'est peut-être un être humain. Et si c'est un être humain, on ne peut plus, dans ce cas-là, faire d'interruption volontaire de grossesse. Eh bien, actuellement, le débat est énorme. Je vous invite tous, d'ailleurs, le 11 mai prochain, au 45 rue des Saints-Pères, où justement on fait venir des généticiens, on fait venir des gynécologues, etc., pour discuter de tout cela. Mais si je parle de tout cela, c'est à 18h30, donc vous avez Amphivace, donc je vous invite. Mais par contre, comment dire, qui l'aborde actuellement ? Qui aborde actuellement dans le débat électoral les 2 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui donnent la pleine possession des personnes, vous et moi, de leur corps, contrairement à nos lois de bioéthique où on dit justement qu'il n'y a non-appropriation du corps humain. Nous rentrons dans une Europe qui a ses règles, je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, elles sont en complète contradiction quelquefois à ce qu'a fait la culture et ce que nous sommes, et nous n'en discutons pas. Et d'un seul coup, va se poser le problème, sur Paris Match ou autre, problème auquel très peu de personnes auront réfléchi, alors que les éléments actuellement existent. Ils sont travaillés par des collègues de Paris 1, en particulier une femme extraordinaire qui a fait une analyse de cela, qui est prof de droit à Paris 1. Mais elle est restée là, c'est-à-dire au-delà du Dalloz qu'elle a écrit, de son... Eh bien, tout ceci n'a peut-être pas été repris par les médias. Je ne dirais pas que les médias ont tort, loin de là. Mais est-ce qu'il n'y a pas éventuellement là un rôle important de communication, de promotion de ces éléments-là, d'interpellation même des personnes ? Car je ne suis pas sûr actuellement que les candidats soient clivants sur leurs propres arguments, alors que sur des arguments comme cela, obligatoirement, ils le seraient. Et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'il y a difficulté argumenter et risquer d'être clivant, peut-être que les candidats ne l'abordent pas.
Alors, la perche est tendue, puisque si il faut impliquer le public, lui donner la parole et établir un véritable débat pour que ces notions soient mieux connues, mieux analysées, mieux débattues, ben c'est voilà une occasion. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Voilà, allez, le micro arrive.
Bonsoir.
Ça marche. On m'entend ? Ça marche quand vous frappez, mais pas quand vous parlez.
En fait, voilà. C'est pas du tout une question. C'est juste pour rassurer Monsieur Hervé. En même temps, je pense que je vous apprends absolument rien, mais vous étiez un petit peu pessimiste à un moment, à juste titre, où vous disiez qu'il faut inciter les scientifiques à ne pas faire que de la science. Moi, personnellement, je suis en médecine. J'ai comme matière l'éthique médicale. C'est une matière que j'adore. J'ai pesté, en fait, d'ailleurs, Leonetti est très intéressante, mais elle est très longue et elle est tombée à mon concours, donc je la connais. J'ai pesté au départ parce que je me suis dit, mince, c'est une matière que j'adore, et finalement, on l'a en cours que les 2 premières années. C'est dommage. Mais c'est récemment, finalement, qu'on a cette matière-là en médecine. C'est depuis Kouchner, il me semble. Alors, bien sûr, 2 années, c'est peut-être un peu trop, mais c'est mieux que rien, finalement. Je pense qu'on est en train de... d'élargir un petit peu le champ, quoi. Voilà, je pense que c'est en bonne
Christian
marche.
Avait, vous avez un commentaire.
Ça fait 20 ans que je fais ça, alors c'est une critique hard. Non, mais je crois qu'en effet, il faut absolument que la réflexion éthique soit à tous les niveaux. Mais si je parlais de ce que vous faisiez mention au début par rapport à la vulgarisation et de tels débats, et construire des débats comme ça, c'est loin d'être simple, n'est-ce pas ? Eh bien, lorsque j'ai présenté des projets de recherche à la direction de la recherche française ou quand je les ai présentés au niveau de l'INSERM, à chaque fois on me disait « Mais est-ce qu'il y a une recherche en éthique ? Est-ce que ça existe, la recherche en éthique ?» Et devant une réponse qui était souvent non, non, ce n'est pas une recherche, eh bien, il n'y avait pas de crédit, il n'y avait pas etc. C'est-à-dire que tout ce qui était du domaine de la réflexion critique de la recherche n'apparaissait pas de la recherche. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des modèles à construire qui sont des modèles qui présentent des limites, limites qui sont à tester, à changer, à faire évoluer en fonction des connaissances. C'est ça l'éthique médicale, à mon avis.
Jean-Louis Potras, est-ce qu'on enseigne l'éthique en dehors de la fac de médecine, par exemple, dans les formations scientifiques ?
Oui, il y a une chaire à Grenoble qui est partagée entre l'université scientifique, l'université Joseph Fourier et l'université Pierre Mendès-France, je crois, donc l'université de sociale, sciences sociales. Donc il y a effectivement, disons, une très timide percée de la réflexion éthique.
Qui concerne les chercheurs scientifiques sur la voie
scientifique.
Qui concerne,
disons, les étudiants,
les étudiants de
DEA, oui. Je pense que ça vient, mais c'est vrai que c'est très, très modeste. Il faut bien le reconnaître. C'est tout à fait embryonnaire.
Une autre question, madame ?
Oui, bonsoir. C'est pas tout à fait une question. Enfin, il y aura une petite question, mais aussi, je voulais saluer l'un et l'autre pour ce que vous avez pu dire sur l'éthique, entre guillemets, d'une façon très large. Et ce que vous avez, enfin, ce que moi j'ai interprété dans vos propos concernant la situation présente. Ce que je voudrais soulever, c'est que, bon, je connais des médecins qui sont contre l'euthanasie et qui souhaitent et qui veulent que l'on fasse des recherches sur les comas, les personnes en état de coma végétatif, donc qui ne sont pas morts cliniquement, mais sur lesquels on pourrait faire des recherches et des bouquins d'écrits à ce sujet. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que quand je vous ai parlé de l'hippocampe,
oui,
j'ai trouvé ça...
Je voudrais pas avoir... En plus, votre question, qui a l'air d'être complètement à côté de la plaque, ne l'est pas, parce qu'à partir du moment où on pourra, à partir d'un changement d'hippocampe, un changement de noyaux gris centraux, un changement de etc., on peut imaginer recomposer complètement et faire durer les personnes. Mais votre question n'est pas celle-là. Et moi, mon intervention tout à l'heure, puisque je parlais de nouvelles technologies, c'était pas... Je citais l'euthanasie pour prendre l'exemple, pour montrer que le drame, pour moi, était beaucoup plus la confusion dans l'esprit des praticiens eux-mêmes. C'était ça que j'étais en train de dénoncer. Comment peut-on être amené à faire une pratique ? Les limites sont bien normées, elles sont même l'objet de sanctions pénales lorsqu'elles sont dépassées. Même si on peut éventuellement en discuter, et la plupart du temps, lorsque les circonstances se passent, si ça s'est fait dans les conditions, je dirais, de grande humanité, c'est très rare lorsque les personnes sont condamnées réellement. Donc tout ceci pour montrer que ce qui était surtout important que j'étais en train de dire, que comment prétendre à vouloir multiplier, des normes, que seraient obligés d'appliquer les professionnels s'ils ne connaissent pas déjà la base même des normes de la fin et du début de la vie, pour prendre cet exemple, et qui sont des normes, comme je l'ai montré, autant celles du début que de la fin de la vie, qui sont énormément évolutives actuellement. Le problème n'est pas d'être pour ou contre l'euthanasie, le problème n'est pas là. Le problème est par rapport à un patient dans la situation dans laquelle je vais me trouver, quels sont les arguments que je vais avoir moi-même par rapport à moi, par rapport aux autres, pour faire ou ne pas faire, ou faire autrement, une action, qui est une action qui peut être thérapeutique, palliative ou autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça demande à ce que le professionnel réfléchisse. Et si je dis, et c'est ce qu'on appelle une réflexion d'éthique médicale, et si ceci est appliquée à la nanomédecine. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser le développement de nanomédecine. Qu'est-ce que c'est ? C'est la régénération de tissus. C'est, comment dire, un endroit précis, remplacer telle ou telle molécule qui va complètement permettre à ce que la maladie ne puisse plus, comment dire, s'extérioriser. C'est des choses quand même qui sont extraordinaires. Et bien, même si c'est pour le bien de la médecine, pour la médecine elle-même, il est nécessaire, d'avant toute intervention, d'essayer de problématiser ça de manière éthique, c'est-à-dire dans un champ particulier avec des limites, quitte ensuite à faire abaisser ces limites ensuite en voyant qu'elles n'étaient pas utiles. Mais c'est ça justement le problème. Quand, lorsque les gens ne connaissent pas les limites parce qu'ils ne connaissent pas les définitions, comment voulez-vous dans ce cas-là qu'ils réfléchissent et c'est là le problème du chercheur, lorsqu'il ne maîtrise pas en définitive les limites de son action.
Jean-Louis Potra, par rapport aux recherches sur le cerveau, est-ce que vous avez l'impression que les chercheurs maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire ? Est-ce qu'ils en ont conscience des limites ?
Je suis sûr que dans la plupart des endroits, c'est extrêmement encadré. Et par des comités d'éthique, par, le fait qu'on ne peut pas publier n'importe quoi aussi. Donc, c'est effectivement très encadré. On peut quand même s'interroger, car il y a aussi des instituts militaires américains, notamment, où il y a des recherches très avancées qui sont faites, dont on ne peut pas dire forcément que ces recherches sont sans intérêt. Elles sont parfois extrêmement intéressantes. Mais on peut se demander si d'abord tout est publié. On peut même être sûr que non. Et on peut des fois avoir des doutes sur, disons, le caractère éthique de ce qui est mené. Bon, je pense qu'on ne peut pas jeter le discrédit comme ça de façon trop posée. Mais enfin, on peut quand même en douter dans la mesure où il n'y a pas de comité d'éthique. Ça, c'est clair.
D'autant qu'il y a aussi la compétition internationale qui joue en matière de recherche.
Comme
Christian avait le souligné, les règles sont déjà différentes.
Les Américains sont les plus avancés.
Et il y a des marchés très importants derrière tout ça.
Non, les Américains sont les plus avancés, mais il faut bien voir que dans les armements, dans un armement, le point faible dans une armée, c'est toujours l'homme, c'est l'opérateur, c'est le pilote d'avion, c'est le pilote de char, etc. Si le pilote d'avion, il a une absence pendant un certain temps, s'il ne se souvient plus de quelque chose, il a un mauvais réflexe, il peut faire ne pas faire ce qu'il doit faire, perdre l'avion et éventuellement perdre la vie. Donc c'est vrai qu'il y a une forte pression pour essayer de, court-circuiter les faiblesses de l'homme, les faiblesses de la personne.
C'est plus qu'une pression, il y a un programme de recherche.
Il y a des programmes de recherche, bien sûr. Voilà. Alors, par exemple, on peut simplement penser à des véhicules téléguidés, par exemple. Ça peut être. On peut imaginer que le combat du futur sera fait avec des chars qui seront complètement téléguidés. Mais on sait aussi qu'il y a des recherches pour utiliser des animaux, parce qu'un organisme, c'est très difficile de faire un téléguidage complet en repérant les obstacles, en faisant uniquement du traitement artificiel de l'information. Mais on peut imaginer d'utiliser un chien ou un singe qui va parfaitement reconnaître les obstacles et qui va, d'une certaine façon, prêter son système nerveux, son cerveau, pour le mettre dans un système asservi qui permettra de guider le véhicule.
L'armée travaille aussi sur le pilotage un petit peu des soldats eux-mêmes, la mesure de leur état psychique, physique,
oui,
à distance,
pour estimer
la capacité de leurs troupes en temps réel.
Je crois qu'il y a là sans doute, c'est là qu'on risque de trouver le point le plus faible du point de vue éthique.
Une autre question ? Devant.
Je souhaiterais poser une question qui sera peut-être un peu hors sujet, mais vous me direz, enfin, en tout cas, votre avis m'intéresse. Pour la nanomédecine, on voit bien que il faudra peut-être tempérer les demandes et encadrer l'usage, mais à la base, la personne qui sera nanomédicalisée sera en demande, donc pourra être au courant des impacts négatifs éventuellement. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, enfin ce qui me préoccupe au moins, c'est l'usage des nanotechnologies au niveau de l'industrie. De façon basique, bon, peut-être je me trompe, mais il me semble que si on définit, si on est capable de construire des molécules de plus en plus fines, avec l'usure des matériaux, on aura des particules aussi de plus en plus fines. D'où une certaine pollution peut-être, enfin un impact au niveau de l'organisme. Voilà, donc je voudrais savoir déjà si à votre connaissance il existe quelque chose pour encadrer, surveiller ce qui peut être utilisé au niveau de l'industrie dans le domaine des nanotechnologies.
Christian Hervé ou Jean-Luc Potrat.
J'ai une petite réponse, c'est qu'on a fait une corrélation entre ce qui a pu se passer par rapport au niveau respiratoire, ce qui a pu entraîner les... avec l'amiante, avec les particules d'amiante. C'est-à-dire qu'en fait, les particules d'amiante elles-mêmes, de la manière qu'elles ont créé en définitive des pathologies en termes de risque, en nombre de fibres, en taille de fibres, etc. Ça a été un modèle qui a été pris pour, non pas faire peur, mais pour montrer un tout petit peu comment pourraient être les risques des nanotechnologies.
C'est pas rassurant, en fait, hein, comme exemple.
C'est pas rassurant, mais je dirais... je vais me permettre de rajouter quelque chose là. Ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas capables, et vous le sentez bien même dans la discussion que nous avons là, nous ne sommes pas capables de penser ce qu'il faudra penser lors de ces nouvelles technologies. Je m'explique. Car il faudra avoir autant une vision chimique, biologique, de sciences humaines et sociales, physiques, tous ces éléments-là vont demander à ce qu'on travaille en termes de multidisciplinarité. Or, jusqu'à maintenant, tout le savoir et la connaissance, justement, a eu un tropisme totalement différent. C'est-à-dire que vous devenez expert, d'autant plus que votre discipline est devenue pointue. Or là, nous allons être avec des éléments qui, par leur petite taille, interviennent à tous les niveaux. Donc il va falloir là une véritable révolution, qui est une révolution de pensée par rapport à ces différents mécanismes.
Jean-Louis Potrat, est-ce que le cas de l'amiante avec ses très grand nombre de victimes risque de se reproduire, voire de se multiplier, parce qu'il n'y aura pas un
alors,
seul
le,
produit
le risque de beaucoup. L'amiante, ce qui est malheureux à rappeler, c'est qu'il a été compris, évoqué depuis très très longtemps. Donc en fait, je dirais qu'on ne peut pas mettre en cause, disons, les scientifiques qui avaient de toute façon identifié, mais bien les structures de décision économique et peut-être il y a eu un certain nombre de sonnettes d'alarme qui n'ont pas été tirées assez fort. Bon, c'est sûr qu'il y a, il y a eu des grosses erreurs. Mais je dirais qu'en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit les scientifiques. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, faire des particules petites, il n'y a pas besoin de nanotechnologie. Hein. En fait, la chimie, c'est la parfaite industrie pour fabriquer des molécules qui, par définition, sont très très petites. Donc, en fait, l'amiante montre aussi qu'il suffit d'une pelle mécanique pour enlever ça du cœur de la Terre. Et puis, à ce moment-là, on a une poussière d'amiante qui est extrêmement dangereuse. Donc,
les diesels aussi font des nanotechnologies.
Les diesels, exactement. Il y a beaucoup de particules dans l'air. Donc, alors, ce n'est pas pour dire que si les autres font mal, les nanotechnologies, elles feront pas plus de mal. Je veux pas dire ça, mais je pense que par définition, disons que les nanotechnologies, c'est des nouveaux matériaux et tout nouveau matériau doit faire l'objet d'une attention extrêmement, extrêmement poussée. Bon, je pense que la réglementation REACH qui a été adoptée récemment, qui impose aux industriels de faire la preuve de l'innocuité des produits qu'ils mettent sur le marché, je pense que ça permet d'aller dans la bonne voie, c'est certain.
En même temps, si vous dites que c'est malgré... les avertissements des scientifiques que le problème de l'amiante s'est produit, ça veut dire qu'il ne suffit pas de savoir et qu'encore faut-il que tous les...
Il ne suffit pas de savoir, mais justement, la réglementation REACH, je crois, elle
permet
fait,
d'anticiper.
Elle reporte la responsabilité sur l'industriel qui doit prouver l'innocuité et l'utilité de son produit avant de le mettre sur le marché.
Une autre question ?
Oui, bonsoir, vous parliez tout à l'heure de la régénération des tissus par les nanotechnologies. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu comment c'est possible?
Ça fait partie je ne suis pas chirurgien moi-même, il y a un certain nombre de travaux qui plaideraient pour qu'il y ait, en fonction de cellules qui soient différenciées, en fonction de protéines bien particulières, qu'il y ait possibilité de faire des régénérations d'organes. Ça fait partie de ce qui est exposé par ceux qui imaginent les nanotechnologies, c'est-à-dire en ayant des impacts au niveau de la formation même de l'organogénèse, comment celle-ci pourrait éventuellement être relancée après un certain nombre de... Ce serait un complément quelque part aux greffes d'organes, c'est-à-dire comment en définitive, par rapport à des cellules dont on pourrait éventuellement les faire revenir à un stade totipotent en intervenant sur un gène bien particulier, mais ceci de manière élective, comment elle pourrait ensuite créer un autre organe, etc. Donc on est quand même devant des possibilités théoriques qui sont en définitive à évaluer au fur et à mesure qu'elles vont risquer d'apparaître. Vous avez aussi la pharmacogénétique. Vous savez que la plupart des médicaments que nous prenons risquent éventuellement de nous entraîner des complications, des allergies, que tous les médicaments, même pour une maladie que nous aurions tous, eh bien, le médicament n'a pas la même action. Et donc, il y a des possibilités de repérage au niveau génétique, de manière à voir quelles sont les modifications qu'il faudrait faire en fonction, que vous avez le bon gène ou le mauvais gène. Si vous avez le gène qui permet que cette molécule vous soit donnée, elle vous sera donnée sûrement et à des doses qui seront sûrement différentes qu'actuellement. Mais si vous avez le gène qui est contraire, il vaut mieux passer à une autre molécule. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une possibilité là aussi de manière plus précise de traiter les personnes. Donc ce sont des éléments ce ne sont pas des nanotechnologies, c'est au niveau de la génétique, mais c'est un simple changement d'échelle. Mais donc on se trouve avec une médecine qui va être de plus en plus pointue en quelque sorte et qui va risquer de plus en plus d'intervenir sur l'évolution physiologique, éventuellement même de faire repartir un certain nombre, par exemple les neurones qui pourraient, dans certains cas, d'ailleurs c'est toute une question qui se pose actuellement des neurones. Moi j'ai appris que jamais un neurone ne se régénérait et j'ai appris par Jean-Pierre Changeux il y a 10 ans lors d'une conférence qu'il nous faisait à Necker, comme quoi il y avait un certain nombre de vagues de neurones qui se faisaient en fonction d'attaques qui avaient pu se faire. Eh bien là, il y a toute une reconstruction, c'est un espoir, reconstruction neuronale qu'éventuellement les nanotechnologies pourraient conduire après un accident vasculaire cérébral ou des choses comme ça, permettre de récupérer des mouvements ou même la pensée, pourquoi pas.
Alors, vous faites référence aux cellules souches et à tous les espoirs qu'elles suscitent. On voit aussi que ce n'est pas si simple, puisque certains travaux sur le cœur n'ont pas donné les résultats espérés.
Oui, il y a un résultat quand même récent qui est dans ce sens, qui est tout à fait impressionnant. C'est des chercheurs ont voulu régénérer un cœur. Donc, ils ont fait ce travail sur des souris. Ils ont enlevé un cœur de souris. Ils l'ont nettoyé, alors je ne sais pas comment, pour ne garder que les fibres de collagène, donc l'enveloppe. Et ensuite, ils ont réensemencé cette enveloppe de cœur avec des cellules souches qui se sont multipliées. Et le cœur s'est remis à battre. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau cœur qui a été fabriqué. Alors, du fait qu'il avait les tissus avaient la bonne conformation, eh bien, ils se sont bien, remis dans la situation qui permet de faire un cœur qui bat, effectivement, parce que les cellules cardiaques, elles vont battre sous l'effet de stimulation électrique. Et donc, ça peut permettre, effectivement, de refabriquer un cœur pour une personne en utilisant des propres cellules souches qui seraient réutiliser, donc il n'y aurait aucun problème de non-compatibilité. On pourrait refabriquer un cœur à partir quand même d'une enveloppe qui serait le cœur de quelqu'un d'autre, mais sans avoir ce problème de rejet.
Alors, Christian Hervé a parlé de finalement de la cartographie du génome qui peut permettre de mieux adapter les médicaments à chaque individu. En même temps, c'est une façon de cartographier quelque chose d'assez intime, d'assez aussi révélateur de potentialités, aussi bien bonnes que mauvaises. Je crois que vous parlez dans votre livre aussi de cette cartographie du cerveau qui peut détecter lors d'examens qui d'ailleurs n'ont pas forcément cet objectif, détecter des maladies qui sont parfois incurables ou pour lesquelles on n'a pas de traitement encore. Et donc la découverte qu'on peut faire grâce à cette imagerie pose problème aussi. Que doit faire le médecin dans ce cas-là ?
C'est sûr qu'on ne peut pas utiliser l'IRM comme une technique de photographie pour dire, voilà, je vais passer un IRM pour avoir la photo de mon cerveau. Et effectivement, il y a des chercheurs qui se prêtent à cet exercice pour, faire avancer leur étude, tout bien et tout honneur, mais des fois, eh bien, on peut constater qu'on tombe sur une malformation, sur quelque chose de tout à fait inattendu, et voir une maladie à un stade très précoce. Et que faire dans ce cas-là ? Ça, c'est une vraie question, effectivement. C'est tout à fait une question d'éthique. Là.
Que dit l'éthique ?
Je ne sais pas ce que dit l'éthique, mais en tout cas... Josué Felgol, qui est un patron, on peut dire, de la génétique et qui est peut-être celui qui a une réflexion éthique fondamentale en génétique, dit lorsqu'on découvre une anomalie, c'est au niveau génétique, mais ça peut être, eh bien, la première chose, c'est de ne pas la considérer comme telle dès lors que ça a été au cours d'une recherche. Pourquoi ? Parce qu'une recherche, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que la construction sociale, c'est-à-dire les bases mêmes, les hypothèses, font qu'on est amené à trouver un certain nombre d'éléments. Et la première chose qui est à faire, c'est à vérifier en premier, de manière clinique, biologique, etc., comme quoi réellement la personne. Deuxièmement, ça pose le problème, bien sûr, de la souffrance de la personne. Mais ça pose aussi, troisièmement, le fait, est-ce qu'on a le droit de ne pas le dire ? Parce que ne pas le dire, cette anomalie peut être héréditaire. Elle peut être familiale et quelquefois, ces anomalies peuvent être prises, même si on ne les traite pas, peuvent être compensées, voire éventuellement, on a la possibilité, d'une prévention. Mais au-delà de tout cela, même s'il n'y avait rien du tout, il y a quand même ce qu'on appelle la recherche. Donc la possibilité que de telles personnes... accepte de rentrer dans des programmes de recherche qui permettent justement de sortir de ces... Parce qu'il n'y aurait rien de pire que... C'est comme si on cassait le thermomètre
à chaque
fois.
La personne n'était pas forcément venue pour cela. La voilà embauchée dans un programme de recherche. C'est ce que vous voulez dire. Mais sans, espoir particulier d'ailleurs d'avoir un bénéfice au final.
J'entends bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité... Vous savez, lorsqu'on a envoyé à des personnes... Lorsqu'on essaye de savoir... des personnes qui ont fait une IVG, par exemple, une interruption volontaire de grossesse. On veut savoir combien elles ont fait, parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui font des IVG en série et qu'il serait bon éventuellement. Lorsqu'on leur écrit, on va leur écrire, c'est leur mari qui risque de le voir éventuellement. Le mari n'est peut-être pas au courant. On va être amené à essayer de leur téléphoner. Et quand on les aura, on pourra discuter. On est obligé, dans ce cas-là, d'envoyer une première lettre en disant « Est-ce que vous permet qu'on vous téléphone, car vous faites partie, etc. ?» Sans dire pour autant que c'est un endroit où on faisait de l'IVG. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut savoir si la personne a envie de savoir ou pas. Ce n'est pas simple, mais je dis qu'on a aussi intérêt, nous, en tant que médecins et scientifiques, lorsqu'on tombe sur une anomalie, d'expliquer... que cette anomalie, ça ne pose aucun problème puisqu'il n'y a aucun signe clinique. Par contre, qu'une surveillance est importante. Sinon, on va arriver à une médecine qui va être une médecine de prédiction, une médecine qui va être de la magie. Aux États-Unis en particulier, quand vous avez maintenant un gène BRCA1 ou BRCA2, eh bien, on propose à la femme qui possède son corps, contrairement... encore au niveau, français, enfin en termes de loi, eh bien on lui propose soit si elle a déjà eu un premier cancer, devant le risque de récidive, on lui proposera une double mammectomie et dans certains cas une ovariectomie, retrait des ovaires et retrait des seins. Tout simplement parce qu'il y a un risque. Il y en a d'autres, ça ne serait plus le côté français qui serait « on va surveiller, on va voir, etc. » Parce que là aussi, on revient à notre discussion du départ, est-ce que pour que le risque ne survienne pas, dans ce cas-là, on se met dans des conditions maximales pour qu'il n'arrive pas ? Et dans ce cas-là, quitte à se mutiler, quitte à ne plus être soi-même. Pourquoi être obligé, dans une situation intellectuelle, de se mettre obligatoirement au bas d'une pente très importante, alors qu'il y a des possibilités de tourner à droite, tourner à gauche ? La science, les technologies, l'intelligence permettant à des moments. Pourquoi vouloir imaginer la chose la plus grave ? Et justement, c'est cette vision pessimiste en définitive de la science qui risque d'arriver à des antinomies de ce qu'est l'être humain par rapport à sa peur. Nous ne devons pas avoir peur, nous savons tous que nous sommes mortels, nous savons tous que nous avons des anomalies, nous savons tous que notre génome, nous avons des anomalies, vous comme moi, excusez-moi de vous l'apprendre, si nous avons, qui s'extériorisent ou qui ne s'extériorisent pas, et nous ne savons pas à quel moment elles s'extérioriseraient, et ça ne nous empêche pas de vivre. Donc le problème, c'est est-ce qu'on doit vivre tout le temps dans cette peur et dans cette inquiétude, ou au contraire, est-ce que l'on ne doit pas céder de notre raison, comme je disais tout à l'heure, des processus de mémorisation, même les aider par des nouvelles nanotechnologies, qui nous permettraient de les aider, y compris avec ces petits éléments qui nous permettraient à ce que, non seulement le neurone, mais la substance dans laquelle il baigne, correspondre à une augmentation de nos activités, dès lors qu'elles seraient supportables, ces activités, vis-à-vis de tous les autres.
Une autre question.
Alors, c'est une question un petit peu plus personnelle et peut-être un petit peu plus agressive que tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. J'ai dans mon entourage très proche quelqu'un qui en a eu un. Et en fait, il a participé de manière totalement expérimentale à des sortes de stimuli électriques au niveau de son bras qui était donc paralysé. Et en fait, ces stimuli électriques, totalement expérimentaux, avaient pour but d'accélérer un petit peu le processus de rééducation. Puisqu'à force de ne plus être stimulé, les cellules musculaires perdaient en mitochondries, en fonctionnalité. Or, vous aviez dit tout à l'heure que les cellules nerveuses étaient renouvelables. En fait, elles le sont, mais pas assez rapidement par rapport à la masse de cellules, etc. C'est aussi le cas pour les cellules musculaires, puisqu'il y a entre les cellules musculaires de toutes petites cellules, les cellules satellites, qui sont des cellules souches musculaires. Et moi, j'ai envie de dire, et c'est très agressif parce que vraiment, c'est quelqu'un de très proche, etc. Puisqu'on le sait, je veux dire, une greffe de main, c'est quelque chose qui a fait le tour du monde, ça a choqué personne. Pourquoi ne pas développer ça, puisque c'est su, c'est possible ? J'aimerais savoir, par rapport aux paralysés, si c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas...
Développer assez... quoi ? Vous n'avez pas précisé. Voilà.
C'est quelque chose qui n'est... Alors, pourquoi est-ce que par rapport aux cellules souches musculaires, si ça n'a pas été fait ? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez connu médicalement, auquel cas autant pour moi, ou alors c'est quelque chose qui n'a pas été fait parce que c'est pas très populaire au niveau d'éthique, parce que les cellules souches et tous les embryons mort-nés qu'on a pu voir à la télé qui vont autour, voilà.
Les cellules musculaires, je crois, enfin je sais pas si voilà, ça a été fait, ça a été fait pour le cœur. Je vous réponds, ça a été fait pour le cœur et pour l'instant les résultats sont pas bons. Donc,
d'accord, j'ai la réponse à ma question.
Les résultats sont, enfin, les recherches continuent pour essayer d'améliorer la régénération musculaire, ça n'est pas au point, semble-t-il.
Bon, bah, merci.
Une autre question pour peut-être terminer, parce que l'heure tourne, et nous arrivons un peu au terme du débat. Alors, deux questions.
Je voulais dire qu'il existe une unité de recherche en éthique médicale à Cochin, qui fonctionne et qui a, je crois, quelques crédits en médecine. En médecine. Moi, je voudrais vraiment... suivre un petit peu la pensée de M. Hervé qui m'intéresse beaucoup parce qu'il a parlé d'une médecine du désir. Moi, je suis médecin et je suis souvent interrogée par cette médecine du désir que l'on est amené à faire de plus en plus. Et c'est vrai que La médecine que j'ai pratiquée a été passionnante parce que j'étais dans une période charnière où elle a complètement évolué, où le malade est devenu une personne. Entre les années 60 et 80, le malade est devenu une personne. Et la médecine a changé et ça a été passionnant. Mais malheureusement, je vois quand même cette médecine du désir qui peut parfois être le, enfin avoir certaines dérives. Et je voudrais compléter en disant aussi à M. Hervé que, tel qu'il l'a soulevé, je pense qu'on a aussi une médecine de la peur. Parce que la prévention, maintenant, on n'a plus le droit de prendre aucun risque. Enfin, vivre, c'est prendre des risques. Et la prévention en médecine est devenue une espèce de chape de plomb. Et qu'est-ce que vous en pensez?
En quelques mots, Christian Hervé.
En quelques mots, je vous enverrai vers le livre qui... la médecine... à mon avis, ne peut plus être comme elle a été auparavant. Déjà, vous l'avez dit vous-même, le rapport à l'autre est tellement important. Désormais, il y a une espèce d'égalité qui n'est pas obligatoire, parce qu'il y a le médecin quand même qui a une compétence, mais il y a aussi le patient qui a aussi un but, qui a une histoire de vie et il a des désirs, justement. Et on doit mettre en équilibre les possibilités que le médecin peut éventuellement apporter vis-à-vis. Et c'est tout le problème qui a été dans la loi du 4 mars 2002, où auparavant, le médecin avait la possibilité de dire « voilà ce que moi je ferais ». Et d'ailleurs, souvent, la plupart des patients continuent encore à dire « qu'est-ce que vous feriez, docteur, lorsqu'il a le choix entre différentes possibilités ?» Et là, maintenant, le malade a même le droit jusqu'à décider, à refuser même un traitement qui lui serait donné. Ce qui est vraiment extraordinaire d'avoir été aussi loin, ce qui montre qu'il a acquis une autonomie. Le drame, c'est que toutes les personnes qui ont l'autonomie ne sont pas en capacité de l'exercer, c'est-à-dire les personnes qui ont des difficultés psychiques, toutes les personnes un peu malades. Malheureusement, c'est justement elles qu'il faudrait protéger, qu'on n'arrive pas à protéger, parce que alors, d'où l'importance que le médecin ait au moins la réflexion minimale de rapport et de respect par rapport à l'autre pour justement essayer de rétablir ce... Alors, par rapport au désir, donc le désir est rentré maintenant. On ne doit pas faire obligatoirement ce que la science dit, mais on doit faire ce que le malade nous dit de faire si ses désirs sont de telle ou telle manière, même si nous ne sommes pas d'accord. Et notre seule possibilité, c'est de leur dire... C'est votre désir de faire telle ou telle intervention par rapport à telle autre, mais sachez que les résultats sont moins bons, même si, etc. Mais c'est à la personne. Donc, on est vraiment dans une vision de désir, et je crois que ça va continuer encore plus, parce que le problème de fond, c'est lorsqu'un malade vient vous voir, vient voir le médecin en disant, voilà, j'ai envie de cela, j'ai envie d'un enfant, j'ai envie de ceci, etc., ce qu'on comprend très bien. Et que si vous ne lui accordiez pas, il en dégagerait une souffrance. Et souvent, il en arrive à ce que le patient qui vient vous voir, parce qu'il n'a pas la chose qu'il vient vous demander, il a développé une souffrance. Et justement, le médecin est là par rapport à la souffrance. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut attendre que les personnes soient en souffrance de manière à leur donner ce que l'on aurait refusé du départ. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de jouer là-dessus? Donc, il y a à repenser encore ce que moi j'appelle un peu la médecine du désir, parce que quand vous avez une personne qui a une tête complètement déformée, pour prendre cet exemple avec une maladie de Recklinghausen, et qui ne peut plus rencontrer les personnes, qui est obligée de rester chez elle et qu'on lui fait une greffe de la face, on ne peut pas dire, bien que ce soit de la chirurgie reconstructive, que c'est une chirurgie de désir. C'est une chirurgie de désir d'être soi-même. Donc, ce qu'il va falloir qu'on réfléchisse avec la médecine, c'est en quoi nous allons permettre aux personnes d'être bien, d'être mieux dans leur peau, avec les moyens et les technologies que nous avons.
Une autre question, monsieur, je crois. Non ? Oui.
Sur l'entrée des sciences en démocratie, on a les travaux de Michel Calon.
Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, on n'entend pas.
L'entrée de la science en démocratie, on a les travaux de Michel Calon, Bernadette Bensot-Vincent. On a parlé aussi du Conseil économique et social pour discuter de ces problèmes-là. Certains ont même invoqué qu'ils pourraient remplacer le Sénat. Mais bon. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Pour l'information du grand public, le Conseil économique et social, c'est peut-être un peu court. Vous ne trouvez pas ?
Moi, je n'ai pas l'avis bien précis là-dessus, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Il y a aussi, on peut évoquer aussi le Parlement des choses de Bruno Latour. Sinon, je voudrais signaler que l'association Viva Agora, le 18 mars, fait une réunion sur ces sujets-là. Viva Agora, je pense que vous connaissez.
Si, si.
Il a travaillé notamment à essayer de faire dialoguer...
Viva Agora.
A essayé de faire dialoguer les pièces et main-d'œuvre avec les scientifiques. Et le 18 mars, je crois qu'ils organisent avec l'IRI, notamment de Bernard Stiegler, une journée sur ces sujets. Je voulais le signaler.
Très bien. Jean-Louis Potrin.
Moi, ce que je peux dire, c'est que toutes les initiatives sont bonnes, toutes les approches sont bonnes. Je crois que l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, il essaye de faire quelque chose, mais bon, il touche pas à tout le monde, loin de là. Donc, avoir des initiatives plus citoyennes, plus proches de comités d'usagers, de comités de malades en particulier, je pense que tout ça, c'est extrêmement utile parce que c'est par ces relais-là que la réflexion peut effectivement diffuser dans l'ensemble de la société.
Si j'ai bien compris la question, j'ai cru entendre un moment Michel Calon. Michel Calon est un scientifique de l'École normale supérieure qui a beaucoup travaillé au niveau des processus hybrides et qui est tout à fait dans notre sujet, c'est-à-dire comment vivre en définitive avec des choses qui sont non humaines et avec les hommes. Et quel est le processus d'humanisation des choses non humaines ? C'est-à-dire comment vivre justement avec ces choses qui nous encombrent, que nous produisons par nos techniques, qui sont en même temps indispensables, qui nous donnent une force pas possible, mais qui risquent très rapidement de nous poser problème si nous n'en avons pas la maîtrise. Maîtrise en quantité, parce qu'ils sont vraiment très importants, tous ces éléments qui dans notre vie on peut appeler des non-humains qui fonctionnent, du type du robot jusqu'à tout ce qu'on veut. Et c'est là tout le problème. Et il dit deuxième élément que je me rappelle de cet auteur, c'est aussi de faire des débats hybrides. C'est-à-dire comment nous sommes obligés actuellement de mêler les publics. Alors ici, il y a un public, à mon avis, qui doit bien connaître Georges Pompidou au niveau de cette bibliothèque. Mais il y a, comment dire, des proximités à trouver. Et c'est vrai qu'actuellement, le Sénat, tel autre, ont des publics bien particuliers. Il serait important, là, peut-être, que les médias, je reviens encore, se saisissent du problème, parce que ça m'apparaît fondamental.
Oui, en général, on finit toujours par trouver que c'est les médias qui doivent faire le travail. C'est très bien, ça nous laisse une perspective. Mais au niveau hybride, vous étiez déjà représentant de cette hybridité, puisque vous êtes un médecin et... un ingénieur, donc voilà déjà un dialogue amorcé. Merci d'avoir participé à ce débat et puis bonne soirée.